Francophone vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui.
Le Monde Aujourd'hui avec Chérubin Orsil et Morgane Guiriec en direct de Washington. Ravi de vous retrouver ce vendredi à l'écoute de VOA Afrique.
Les grands points de l'actualité, le gouvernement malien reconnaît avoir libéré 4 militants en échange du français Serge Lazarevitch.
Le Burkina Faso se prépare à commémorer l'anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo.
C'est la première commémoration avec la chute d'un pan du régime du président Compaoré. Considérons que ce n'est qu'une victoire de semi-étape parce que l'affaire Norbert Zongo n'a pas encore connu son dénouement total.
Au Gabon, la grogne des populations s'intensifie, la grève du secteur pétrolier perdure et le pays fait face à d'autres pressions sociales.
On attend, dans les taxis, moi j'ai emprunté depuis hier, les gens grognent un peu, ça va finir quand ?
On fera le point avec un journaliste sur place à Libreville. Tensions entre Israéliens et Palestiniens, citoyens et intérêts de l'État hébreu ont été la cible d'attaques dans divers pays.
Et nous aurons notre page économique, les sports et la musique. Mais d'abord, le journal. Au Nigeria, un double attentat meurtrier perpétré hier soir dans un marché de Jos, près d'une station de bus, a fait au moins 31 morts selon un bilan provisoire. Les autorités ont imputé les deux explosions au groupe islamiste Boko Haram. Jacques Aristide.
Pour Pam Ayouba, porte-parole du gouverneur de l'État du Plateau, dont Jos est la capitale, les attaques commises jeudi sont une extension des actes terroristes qui frappent les États et les villes du Nigeria. D'après des responsables à des services d'urgence, ce sont des kamikazes au volant de voitures séparées qui ont fait exploser deux bombes à quelques minutes l'une de l'autre dans le marché principal de Jos. Une ville où un précédent attentat à la bombe au mois de mai avait fait 118 morts. L'attaque a porté la marque de Boko Haram qui mène depuis 5 ans une campagne d'insurrection dans le nord-est du pays. Le double attentat d'hier survient au lendemain de l'arrestation à Kano, la grande ville du Nord, d'une fille de 13 ans munie d'une ceinture d'explosifs. Les attaques interviennent également au moment où le parti du président Goodluck Jonathan et la principale coalition de l'opposition se sont mis d'accord sur leur candidat pour l'élection présidentielle de février 2015. Goodluck Jonathan a été choisi comme candidat du Parti démocratique du peuple et sera opposé à Muhammadu Buhari.
L'ex-président burkinabé Blaise Compaoré est de retour en Côte d'Ivoire, c'est ce que disent les autorités ivoiriennes citées par l'AFP. Il s'y était réfugié après sa chute fin octobre, hébergé dans une luxueuse villa officielle de Yamoussoukro, avant de poursuivre son exil au Maroc. L'ancien chef de l'État était resté un peu plus de 3 semaines en Côte d'Ivoire.
Réaction en Côte d'Ivoire suite à la décision de la Cour pénale internationale de juger Charles Blé Goudé, une décision politique qui ne respecte pas le droit, estime Maître Claverne Dri, l'un de ses avocats. Proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé est poursuivi pour crime contre l'humanité.
Et toujours en Côte d'Ivoire, on prépare la présidentielle de 2015. Le Rassemblement des Républicains, RDR, le parti au pouvoir, plaide pour un front uni de la majorité derrière le président Alassane Dramane Ouattara. C'est ce qu'a indiqué le RDR à l'agence France-Presse.
Nouveau bilan de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. On compte désormais 6583 morts sur un total de 18188 cas. Un cas suspect a été placé en quarantaine en Guinée-Bissau, de même que 8 personnes l'ayant approché. Il s'agit d'un Guinéen, d'après une source médicale citée par l'AFP. Par ailleurs, les célébrations publiques de Noël et du Nouvel An seront interdites cette année en Sierra Leone à cause du virus. Des militaires seront dans les rues pour empêcher toute festivité, a annoncé le chef du Centre national de lutte contre l'épidémie.
Tout un symbole à Bujumbura. Après 20 ans de présence, l'ONU a officiellement fermé sa mission politique aujourd'hui au Burundi. Ce départ intervient malgré des tensions croissantes à quelques mois des élections générales. Nicolas Pineau nous en dit plus.
Oui, le drapeau onusien a été amené ce matin lors d'une cérémonie dans l'enceinte du bureau des Nations Unies au Burundi en présence du sous-secrétaire général de l'ONU chargé des affaires politiques Jeffrey Feltman et du ministre burundais des Relations extérieures Laurent Kavakure. Différentes missions onusiennes se sont succédées depuis l'assassinat en 1993 du premier président démocratiquement élu, Melchior Ndadaye. Ce Hutu avait été tué lors d'une tentative de coup d'État menée par l'armée alors dominée par la minorité Tutsi. Un événement qui plonge le Burundi dans une guerre civile jusqu'en 2006. Jusqu'à 5500 casques bleus ont été présents dans le pays au plus fort de la crise. La fermeture du bureau onusien, réclamée par les autorités burundaises, a été critiquée par la société civile et l'opposition en raison de l'approche d'élections générales cruciales au Burundi l'année prochaine. La communauté internationale s'inquiète, elle, depuis plusieurs mois, des tensions croissantes à Bujumbura.
L'Ouganda et le Rwanda doivent collaborer avec la RDC pour traduire en justice les ex-membres du M23 responsables de crimes. C'est l'appel de Human Rights Watch qui affirme que ces deux pays n'ont pas respecté leurs engagements. Kampala et Kigali accordent en effet refuge à d'anciens rebelles sur leur sol, ce qui les place à l'abri de toute poursuite, dénonce l'ONG. Les explications d'Eddie Isango.
12 mois après leur défaite, de nombreux responsables militaires du mouvement du 23 mars se trouvent dans ces deux pays, notamment Sultani Makenga en Ouganda. Une dizaine de ces hauts cadres sont accusés de graves violations des droits de l'homme et ne peuvent pas bénéficier de l'amnistie signée avec le gouvernement congolais le 12 décembre 2013. Kinshasa s'est engagé à les traduire en justice, un véritable changement selon Human Rights Watch qui déplore pourtant qu'un an plus tard, aucun progrès n'a été accompli. L'ONG américaine affirme que cette volonté congolaise est sans valeur si elle n'est pas suivie d'action. La coopération du Rwanda et de l'Ouganda est cruciale. Par ailleurs, les gouvernements congolais et les M23 devaient se retrouver cette semaine à Luanda pour de nouvelles discussions sous l'auspice de la CIRGL. Mais la réunion a été annulée après l'annonce à Kinshasa du nouveau gouvernement Matata Mponyo.
Nouveau décès dans une sucrerie de Morondav dans l'ouest de Madagascar. Un gardien et un militaire ont été tués à l'arme blanche hier.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des citoyens israéliens et des intérêts de l'État hébreu ont été la cible d'attaques en divers endroits ce vendredi, alors même que les autorités se préparaient contre des manifestations suite à la mort d'un ministre palestinien dans un incident impliquant les forces de sécurité israéliennes. Timothée Donangmaï nous en dit plus.
À Athènes, des hommes armés ont tiré sur l'ambassade d'Israël. Personne n'a été blessé dans cette attaque la nuit dernière. Les autorités israéliennes disent que c'est l'effet de l'incitation par les Palestiniens. Dans un incident, aujourd'hui, en Cisjordanie occupée, un Palestinien a jeté ce que l'on croit être de l'acide sur une famille israélienne. 4 enfants auraient été blessés. Jérusalem a récemment connu une vague de troubles, y compris des manifestations régulières, des affrontements et des attaques isolées, mais meurtrières par des Palestiniens, contre des civils et des cibles officielles en Israël. Les autorités ont renforcé la présence de la police dans la ville, craignant que les manifestations ne dégénèrent après les prières du vendredi. Les Palestiniens ne décolèrent pas depuis la mort de l'un de leurs ministres, Ziad Abu Ayn, durant une confrontation avec l'armée israélienne. Une enquête est en cours, mais des médecins palestiniens ont déclaré jeudi que l'autopsie a montré qu'il est mort des suites de coups reçus de l'inhalation de gaz lacrymogène et d'un manque de soins médicaux. Les responsables israéliens soutiennent de leur côté que l'homme politique de 55 ans a succombé à une crise cardiaque.
Sachez aussi que le Parlement portugais a adopté une recommandation appelant le gouvernement à reconnaître l'État palestinien. La majorité et une partie de l'opposition se sont jointes dans ce vote qui s'inscrit dans un mouvement global en Europe au lendemain d'une initiative similaire du Sénat et de l'Assemblée nationale en France.
Une attaque aux obus de mortier a fait un mort aujourd'hui près de la ville sainte-irakienne de Kerbala, à 110 km au sud de Bagdad, où des millions de fidèles s'apprêtent à marquer l'une des plus importantes commémorations du calendrier religieux chiite. Un important dispositif de sécurité est en place pour prévenir tout attentat contre la foule des pèlerins massés pour l'Arbaïn, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde qui marque la fin des 40 jours de deuil après l'anniversaire de la mort de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed. Les commémorations s'achèvent demain.
Au Pakistan, la police annonce l'arrestation de 5 membres présumés d'une filiale d'Al-Qaïda, récemment formée en Asie du Sud. L'un des détenus, Shahid Ousmane, serait le chef du groupe à Karachi. Et le président Barack Obama a promulgué une loi prolongeant de 2 jours le budget fédéral aux États-Unis, une mesure qui permet aux législateurs de poursuivre les tractations sur le budget 2015 et au gouvernement d'éviter une fermeture partielle. Michel Joseph.
La rallonge budgétaire temporaire a été approuvée hier soir à la dernière minute par les deux chambres du Congrès à l'issue d'âpres négociations. Hier, la Chambre des représentants a approuvé le budget général de plus de 1 000 milliards de dollars devant financer le gouvernement fédéral jusqu'à septembre 2015. Le Sénat a jusqu'à samedi pour faire de même. Hier, le président de la Chambre des représentants, le républicain John Boehner, avait averti ses collègues que s'ils n'adoptaient pas le budget 2015 ou même une mesure temporaire, ils allaient rester à Washington jusqu'à Noël pour s'acquitter de cette tâche. Des législateurs des deux camps et le président Barack Obama ont appelé à l'adoption du projet de budget, même si les conservateurs républicains et les libéraux démocrates n'en étaient pas satisfaits. Les premiers estiment que rien n'est prévu dans cette mesure pour empêcher le président Obama de procéder par décret à la réforme de l'immigration, alors que les seconds s'insurgent contre l'assouplissement de la réglementation bancaire contenue dans ce budget.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco aujourd'hui, c'est avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
C'est toujours l'impasse au Gabon dans le conflit qui oppose les syndicats du secteur pétrolier au gouvernement.
La réunion d'hier n'a rien donné et les deux parties se rencontrent à nouveau en ce moment. Joint par VOA Afrique, Paul-Aimé Bagafou, le secrétaire général de l'ONEP, ne s'est pas montré très optimiste quant à l'issue de nouvelles négociations. Sans accord, la pénurie de carburant pourrait s'aggraver au-delà de Libreville et Port-Gentil dès la semaine prochaine.
Le Kenya va fournir de l'électricité au Rwanda.
30 mégawatts de capacité électrique à partir du juillet prochain. Une ligne à haute tension devra être construite. Elle reliera le Rwanda au site géothermique kényan d'Olkaria en passant par l'Ouganda. Cela permettra à Kigali de répondre à sa demande croissante en énergie.
Et les cours du cacao en baissent cette semaine.
Et oui, sur fond de bonnes récoltes en Côte d'Ivoire et au Ghana, premier et deuxième producteurs mondiaux de fèves de cacao. À New York, la tonne de cacao a chuté ce vendredi à son plus bas niveau depuis le mois de décembre, à 2,84 dollars.
On change la numérotation au Cameroun.
Et oui, depuis quelques semaines, il faut désormais composer 9 chiffres pour joindre votre interlocuteur. Ajoutez le 2 pour Camtel et le 6 pour les 3 autres opérateurs, Orange, MTN et Nextel.
Voilà pour la Minute Éco de ce vendredi. Merci Nicolas Pineau.
Place à l'actualité sportive, nous avons avec nous en studio Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Parlons football. Préparation en Guinée équatoriale pour la finale du tournoi de la CEMAC.
Oui, les Diables Rouges congolais face au Sao du Tchad, c'est l'affiche de cette finale demain à Bata. Les Congolais ont battu le Cameroun 2-0 en demi-finale, tandis que les Tchadiens ont battu le pays organisateur, le Nzalang National, 2-0. Le Cameroun et la Guinée équatoriale s'affrontent ce soir à Malabo pour la troisième place.
Alors,
on va parler du mondial des clubs hein, au Maroc.
J'allais justement vous dire que le club marocain du Maghreb de Tétouan a subi une défaite. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Ben, ils ont été éliminés hein, par les New-Zélandais d'Auckland City FC. Et donc, l'Afrique sera représentée à l'édition 2014 de la Coupe du Monde des clubs par les Algériens de l'Est Sétif. Demain, ils affronteront à leur tour Auckland à Rabat.
La Suisse prend des mesures contre la corruption dans le sport, Bagassi?
Oui, les parlementaires suisses ont approuvé ce vendredi une loi FIFA permettant de poursuivre pénalement plus facilement en cas de corruption les dirigeants de la fédération, des fédérations internationales basées sur leur sol. Ce texte chérubin intervient après des soupçons de malversation autour de la FIFA depuis plusieurs années, notamment en raison de l'attribution des mondiaux 2018 à la Russie et 2022 au Qatar.
Enfin, basketball, la NBA, quelques résultats?
Voilà, un grand n'est pas un petit, hein. Privé de LeBron James en délicatesse avec son genou gauche, Cleveland a vu son invincibilité s'arrêter à 8 victoires consécutives hier soir à Oklahoma City, OKC donc, 103-94. Et James Harden, meilleur marqueur du match Sacramento-Houston pour permettre aux Texans de l'emporter en prolongation 109-113.
Voilà, merci Bagassi Koura pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
À Washington, chez Robin Dorcy et Morgane Guiriac, en votre compagnie pour cette édition du vendredi 12 décembre. Place au dossier du jour, on commence au Mali.
Oui, le gouvernement reconnaît avoir libéré 4 militants en échange du français Serge Lazarevitch, détenu depuis 3 ans par Al-Qaïda au Maghreb islamique et libéré mardi. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision France 24, le ministre malien de la Justice, Mohamed Ali Bartili, a dit que ce n'est pas de gaieté de cœur que le Mali s'engage dans de telles opérations. Des organisations maliennes de défense des droits de l'homme avaient en effet dénoncé cette décision. Timothée Donongmaï a recueilli la réaction de Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'homme.
Nous avons toujours soutenu le fait que Lazarevitch soit en liberté. Cela nous réjouit beaucoup parce que nous sommes des défenseurs des droits humains. Nous sommes là aussi pour défendre et protéger la liberté des individus. S'il est en liberté, c'est une très bonne chose. Seulement, on est indigné par les conditions de sa libération qui éprouvent et la France et le Mali ont montré leur impuissance devant le terrorisme. Parce que la France dit partout, on doit lutter contre le terrorisme. Le Mali aussi soutient, c'est le même leitmotiv. Mais si on voit que ces pays relâchent encore des terroristes reconnus de notoriété publique, donc c'est un aveu d'impuissance et une violation très grave des droits des victimes. Parce que dans le cas du Mali, ceux qui ont été relâchés sont impliqués dans les graves violations des droits humains au nord du Mali. Chercher cette paix dans le dos des victimes ou au mépris de la souffrance des victimes, vraiment c'est une chose qu'on ne peut même pas qualifier.
Quelle était l'alternative concernant le cas de Lazarevitch?
Devait résister. Il résistait, il y a d'autres prisonniers qui pouvaient être échangés, mais pas ces criminels de crimes internationaux. Ce qui fait que la population malienne est sous le choc, on est tous atterrés, nous ne comprenons pas cette attitude. Parce que si on commence à faire le jeu des terroristes, ça ne va pas s'arrêter.
Avec cette déclaration du ministre Mohamed Ali Bartili concernant cette affaire, il y a au moins une certaine transparence, ne pensez-vous pas?
Non, la transparence, on a obligé le gouvernement à faire la transparence. Parce que le mardi, quand j'ai fait une conférence de presse, j'ai dit qu'ils ont libéré 4 terroristes. Immédiatement, je crois que certains journalistes avaient vu le ministre au préalable qui les avait dit que ce n'est que des rumeurs et que ce n'est pas fondé, que nous devons d'abord nous référer au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme avant de diffuser une telle information. Mais la suite des événements nous a donné raison.
Voilà, c'était Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'homme.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Le Burkina Faso commémore demain, samedi 13 décembre, l'anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses 3 compagnons de route. Ils ont été tués sur la route de Sapoui, à quelques 100 km au sud de Ouagadougou, en 1998. Une commission d'enquête internationale avait à l'époque désigné 6 membres de la garde rapprochée de Blaise Compaoré comme étant de sérieux suspects. Mais l'affaire a été classée sans suite par la justice, alors accusée d'être aux ordres du régime Compaoré. Que signifie la commémoration du 13 décembre après la chute de Blaise Compaoré? Bagassi Koura a posé la question à Maître Farama, un des avocats de la famille Zongo.
Disons, le sentiment premier que nous avons, c'est un sentiment de semi-victoire, parce que ce sera la première commémoration avec la chute d'un fan du régime du président Compaoré. Mais nous considérons que ce n'est qu'une victoire du parcours, une victoire de semi-étape, parce que l'affaire Norbert Zongo n'a pas encore connu son dénouement total. Donc c'est aussi le symbole d'une nouvelle mobilisation, d'une nouvelle détermination pour une lutte définitive, hein, pour aboutir à la vérité et à la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons.
Alors, on sait que les nouvelles autorités ont annoncé beaucoup de bonnes intentions, hein, mais pour l'instant, aucun acte concret.
Absolument. C'est d'ailleurs la critique que nous faisons aux autorités de la transition. Beaucoup de paroles et très, très peu d'actes. Alors que ça fait 27 ans que nous sommes, on va dire, sur le terrain de la bataille, du combat, il est temps qu'au-delà des paroles, nous voyions concrètement des actes et surtout des résultats.
Alors, on vous promet des réformes au niveau de la justice à partir de la nouvelle année. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, c'est bien de faire des réformes, mais on n'a pas besoin, à notre avis, d'attendre des réformes pour rechercher la justice et la vérité. Pour nous, il est important déjà que des actions fortes soient engagées et que tous les dossiers qui sont pendants au Burkina Faso connaissent une évolution concrète avec des résultats concrets visibles pour tout le peuple burkinabé. Parce que ces questions d'état généraux ressemblent un peu à ce que nous avons déjà vu sous le régime du président Compaoré, où on a fait beaucoup de discours, beaucoup de réunions, beaucoup d'états généraux, et au finish, on n'a jamais vu de vérité ni de justice dans aucun dossier dans ce pays.
Et qu'en est-il du dossier de ceux qui sont tombés lors des manifestations d'octobre?
Des 30 et 31 octobre, justement, jusque-là, nous n'avons rien entendu de concret de la part des autorités de la transition, si ce n'est des commémorations, des hommages, la construction des panthéons en leur hommage, ce qui est déjà bien. Mais pour nous, c'est clair. Au-delà de ça, le meilleur hommage qu'on puisse leur rendre, c'est de rechercher qui a tiré sur eux et qui a ordonné de tirer sur eux. Et en ce qui concerne le collectif et le mouvement burkinabé des droits de l'homme, nous avons décidé, si les autorités ne réagissent pas, d'engager donc des plaintes, de déposer des dénonciations donc d'infractions pour que les dossiers soient ouverts pour la recherche et la sanction des assassins de ces fils du peuple.
Joint par Bagassi Koura, c'était Maître Prosper Farama, un des avocats de la famille du journaliste burkinabé assassiné Norbert Zongo.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Cap maintenant sur le Gabon, où la grève lancée par l'Organisation nationale des employés du pétrole provoque des remous au sein de la population. Le problème d'approvisionnement en carburant vient s'ajouter à d'autres préoccupations sociales aux conséquences imprévisibles. Les autorités et les syndicalistes discutent en vue de trouver un accord. Au plan politique, l'opposition continue de tirer à boulets rouges sur le président Ali Bongo, en attendant début de grogne dans certains secteurs de Libreville, où le carburant était quasi introuvable ce vendredi. Nous avons joint pour un éclairage le journaliste François Djimbi.
Bon, presque pas une goutte d'essence. Heureusement, il y a le mot presque, parce qu'il y a quand même du carburant, les voitures circulent. C'est vrai que sur le front de mer, il y a un indicateur. C'est la grande artère de Libreville. Le trafic n'est pas aussi intense que ça. Les gens roulent utile. Dans les stations d'essence où le carburant est signalé, il y a des queues monstres qui provoquent des embouteillages autour des stations. Ça signifie que le carburant arrive quand même, j'allais dire au compte-gouttes pour utiliser une image. Et quand il est signalé dans une station, c'est le rush vers cette station. Les taximens ont dû monter les enchères. Dans des parcours qu'on pourrait faire à 500 francs CFA, sont passés à 1000 francs. Ils n'en veulent même plus d'ailleurs.
Dans un contexte pareil, quelle est l'humeur à Libreville?
Bon, je peux dire d'une manière générale que le Gabonais est quelqu'un d'un peu bonze, un peu pas résigné, mais quelqu'un qui est stoïque. On attend, on gueule. Dans les taxis, moi j'ai emprunté depuis hier, les gens grognent un peu, ça va finir quand, tout ça, bon.
Ça apporte de l'eau au moulin des politiques.
Pour le moment, les politiques ne se sont pas prononcés dessus. Enfin, on est dans un contexte où le fonds social est en ébullition. On a une vingtaine de syndicats en embuscade comme ça, mais qui devaient peut-être descendre dans la rue. Le gouvernement a entamé des négociations qui, je crois, selon l'objectif visé, devraient aboutir à une trêve sociale. Et les négociations sont en cours. Mais depuis deux semaines, il y a ces assises-là. L'Organisation nationale des employés du pétrole a posé des revendications. L'opposition n'a pas fait de déclaration à ce sujet.
S'il n'y a pas d'entente entre le gouvernement et les syndicalistes, on pourrait voir d'autres mouvements sociaux.
Enfin, pendant qu'il y a la grève de l'ONEP, il y a des syndicats qui continuent à faire la grève. Je dis par exemple au ministère du pétrole, autour des impôts et de la douane, il y a ce qu'on appelle l'intersyndicale des régies financières. Donc c'est une sorte de confédération syndicale et ils sont en grève.
Au plan sécuritaire, comment sont les choses?
Il n'y a pas plus d'insécurité qu'avant.
Est-ce qu'il y a risque de manifestation dans les prochains jours?
Si le carburant continue de manquer, beaucoup de gens pourraient se fâcher parce que ça va entraîner beaucoup de choses. L'unique fournisseur d'électricité a une bonne partie de ses centrales qui fonctionnent au gasoil. Ça signifie qu'il y aura même des répercussions sur la fourniture en électricité.
François Ndjimbi, directeur de la rédaction de Gabon Review, une des principales publications en ligne au Gabon.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Togo, comme annoncé le 28 novembre dernier, les organisations de défense des droits de l'homme étaient de nouveau dans les rues de Lomé aujourd'hui pour exiger des réformes en vue de la présidentielle de 2015. Elles comptaient sur l'appui des partis politiques membres de CAP 2015, combat pour l'alternance politique en 2015 au Togo. C'est le reportage de notre correspondante Kayi Lawson.
Les organisations de défense des droits de l'homme ont encore battu le pavé ce vendredi à Lomé. La raison de la manifestation demeure la même. L'impératif des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Au démarrage de la marche, le coordinateur du collectif Sauvons le Togo a rappelé la motivation. Maître Zeus Ajavon.
Les réformes sont indispensables. Elles sont obligatoires. C'est clair. Qui est consensus, qui n'est pas consensus, comment ils feront? Mais nous disons que quel que soit ce qui se passe, il faut qu'il y ait ces réformes-là avant toute élection. Nous voulons qu'il y ait des réformes pour faire la paix sociale, l'apaisement, la concorde, l'unité nationale, la réconciliation nationale. C'est ce que nous voulons. Donc ça veut dire qu'il faut faire les réformes, quel que soit ce qui se passe.
Le combat pour l'alternance politique en 2015 était aux côtés des ODDH pour la cause commune. Mais pour les politiques, en plus des réformes, un autre objectif sous-tend leur mobilisation. Docteur Georges Couesson du CAP 2015.
L'alternance politique en 2015, nous allons la voir. Même si je n'y croyais pas, je n'allais pas me décarcasser à faire tout ce que je suis en train de faire. C'est parce que j'y crois que je le fais. C'est ce que nous pensons obtenir à travers donc, tout ce que nous sommes en train de faire.
Le problème qui rend difficile le vote par le Parlement des réformes est la volonté de l'opposition de voir la loi votée s'appliquer immédiatement et empêcher l'actuel président d'être candidat à sa propre succession. Après le meeting qui a suivi la marche, Zeus Ajavon a invité Fonia Singbe à renoncer au fauteuil présidentiel en 2015.
Tout le monde est sorti. Et donc moi je suis très satisfait. Et c'est un signal qu'on envoie. C'est pour cela qu'il vaut mieux que le pouvoir s'organise pour que les choses se fassent de la meilleure manière, à l'amiable, dans la sérénité, et que Fonia Singbe lui-même accepte de ne pas se présenter lors de l'élection de 2015, qu'il annonce, parce qu'il a dit la dernière fois qu'il réserve la surprise au peuple togolais. Et moi j'attends cette surprise, je pense qu'il va sûrement nous dire qu'il ne se présentera pas.
Le combat pour l'alternance politique en 2015 qui a investi Jean-Pierre Fabre comme candidat vient d'exclure deux de ses membres. Ils ne sont plus que 8 partis politiques à investir la candidature du président de l'Alliance nationale pour le changement. Kayi Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
C'est l'heure de la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. C'est le week-end et on a choisi un morceau super de Panchak Zamani, alias Ice Prince, un artiste nigérien de hip-hop et aussi un acteur. Écoutons sa chanson Magic Shan en featuring avec l'artiste jamaïcain Jeff Shan.
Say let me do you like a magic shan. Your big ma kick like a Chinese man. You drop bomb like the Pakistan. And your body sing song like an artist man.
Ice Prince s'est fait connaître en 2009 à la sortie du single Oleku, un des titres les plus remixés du Nigeria. Il a remporté de nombreux prix, hein. Je citerai par exemple le BET Award, Ghana Award et Nigeria Entertainment Award.
You make the girls skip my list, man. Me, I won't put my pen in your office, man. You too fine and you perfect, man. You the star, my roll off the carpet, man. The way you stick my youth out to this. And if it's gonna end, then we part to this. Your body beating, I'ma rap to this. I'ma be your payday like the R2Bs. You too deep like the ocean. And your body too smooth like a lotion. Say, I want a piece of that potion. Baby, girl,
c'était Magic Chan. Bon week-end à tous nos auditeurs de VOA Afrique.
Merci, Roger.
Mais c'est moi qui vous remercie, Morgane. Bon week-end.
Cette édition a été mise en onde par Michel Joseph, assisté de M. Regis à la console technique.
Merci à toute la rédaction. Au micro, c'était Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.